Dans un article paru dans la presse, un peu avant qu'on tombe en vacances, si je peux le dire, et qu'on revienne, c'est-à-dire en fin novembre 2017, la journaliste Marie-Ève Maurras faisait état d'un grand changement en éducation, je dirais même en matière d'accommodement. L'article en question, c'était « Le nombre d'étudiants à besoins particuliers explose sur les campus ». Donc, en gros, elle nous rappelle qu'après les élèves qui ont une déficience motrice, visuelle et auditive, il y a toute de nouvelles cohortes qu'on appelle les clientèles émergentes qui sont très nombreuses et qui viennent s'ajouter aux besoins dits à besoins particuliers. Donc, c'est un grand changement en éducation. C'est pour ça qu'on invite M. Nicolas Fortin, vice-président de l'Association québécoise interuniversitaire des conseillers aux étudiants en situation de handicap. Bonjour, M. Fortin.
Bonjour, M. Rassette. Ça va bien?
Ben oui, ça va bien. Content que vous soyez là. C'est rare qu'on vous convie à l'émission. Juste le dire, c'est votre acronyme, c'est AQUISÈCHE.
AQUISÈCHE.
Voilà.
L'Association québécoise et interuniversitaire des étudiants en situation de handicap. Nous sommes 17 universités québécoises.
Ah oui.
Dans notre association, dans cette association-là, il y a des responsables des services d'aide pour les étudiants en situation de handicap, mm-hmm. et il y a aussi des conseillers.
Bon.
C'est convivial comme association et je vous dirai par la suite c'est quoi un petit peu nos motivations et notre raison d'être.
Parfait. Et donc, vous n'êtes pas nécessairement un organisme de défense de droits, on entend. Vous êtes là pour regrouper ces professionnels rares, mais nécessaires, des milieux postsecondaires. Mais il y a aussi des au cégep et à l'université de ces professionnels. Bon.
Oui.
C'est ça? OK. Donc, M. Nicolas Fortin, l'article dont on parlait parle d'étudiants à besoins particuliers, de son nombre qui explose dans une université du Québec. Est-ce qu'on parle souvent de ces personnes? Qu'en est-il?
Oui, bien, je vais vous donner un petit peu des statistiques. Effectivement, que depuis près de 15 ans, notamment en 2002-2003, nous avions pour l'ensemble des universités québécoises 1645 étudiants.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, et je vous donne les statistiques de 2016-2017, parce que nos statistiques sont toujours, on les comptabilise à partir du mois d'avril.
Mm-hmm.
Donc, sont pas notamment encore sortis pour cette année, mais pour l'année passée, nous en comptons 14 652.
C'est plus qu'une explosion, là. C'est même presque exponentiel. Et donc, il faut comprendre, dans ces 14 500 environ étudiants, il n'y a pas une grande croissance de personnes qui auraient une déficience motrice ou qui seraient aveugles, par exemple. C'est vraiment ce qu'on appelle les clientèles émergentes. C'est à peu près combien, puis c'est qui exactement?
Oui, ben en fait maintenant il émerge plus parce que c'est des étudiants que ça fait 10 ans environ qu'on en retrouve davantage.
C'est l'ancien vocable,
oui. Oui, on nomme plutôt un handicap non visible plutôt que des étudiants qui ont un handicap émergent.
Mm-hmm.
C'est comme ça qu'on pourrait les définir, en fait.
Mm-hmm.
Quand on parle de troubles du déficit de l'attention, troubles d'apprentissage, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, troubles de santé mentale et troubles du spectre de l'autisme.
Mm. Et d'ailleurs, rappelons même que le trouble du spectre de l'autisme s'est grandi dans son faisceau. Hein. On dénombre autour de 2% des personnes de la population qui auraient ou qui se retrouveraient quelque part dans ce trouble-là. Ça fait mm-hmm. beaucoup de monde.
Oui,
bon.
C'est grandissant dans les universités, effectivement.
Mm.
Puis, ce qu'on peut retrouver aussi, c'est beaucoup d'étudiants qui ont un TDA, TDAH.
Oui, le TDA, TDAH. Et là, au micro, il pourrait vous en parler. Mais au-delà de ça, parce qu'on parle des élèves, j'aurais envie d'abord de vous demander comment on aide les professeurs à rendre ces accommodements-là possibles et conviviales, disons-le comme ça.
Ben en fait, tantôt on discutait de l'AQUISÈCHE. L'AQUISÈCHE, c'est notre association et chaque année, l'AQUISÈCHE donne des formations à l'automne et au printemps sur des enjeux de nos étudiants en situation de handicap.
Mm-hmm.
Alors c'est des formations qui se veulent un petit peu, qui sont centrées en fait sur les problématiques que peuvent vivre les étudiants,
mm-hmm.
et aider un petit peu les conseillers à parfaire leur formation. C'est des formations sur... il y a eu l'année passée sur la lecture d'un rapport neuropsychologique et un petit peu de ce qu'on peut en comprendre et comment qu'on peut en sortir des éléments de conclusion pour pouvoir libeller des accommodements pour nos étudiants.
En gros, c'est parce que faut que les professeurs soient informés des types ou des limitations fonctionnelles possibles et, disons, accommoder, déployer des manières un peu différentes de dispenser l'enseignement.
Oui,
ou même l'évaluation.
Oui, et les conseillers se basent en fait sur des évaluations, que ce soit neuropsychologiques, que ce soit des évaluations psychologiques. En fait, les professionnels qui sont soumis à la loi 21, qui peuvent porter des diagnostics. Mais ce que j'ai le goût de rajouter, c'est qu'il y a des guides qui se sont faits en ce sens pour aider les professeurs, notamment à l'Université de Montréal, nous avons fait un guide. Je sais que Mme Ruth Filion aussi a fait un guide pour un petit peu les accommodements des étudiants en situation de handicap.
Bien.
Fait que ces guides-là proposent des moyens déjà mis en place pour venir répondre aux questionnements aux préoccupations du personnel enseignant.
Oui, d'ailleurs, il ne faut jamais compléter la phrase de quelqu'un qui a une difficulté d'élocution. Non, c'est une blague! Non, mais je reviens quand même pour souligner une chose, Nicolas Fortin, je ne l'ai pas présenté d'emblée, mais vous êtes aussi conseiller du service de soutien aux étudiants en situation de handicap à l'Université de Montréal. Donc,
oui, je suis le coordonnateur du SESH et je suis aussi conseiller d'orientation. J'ai fait beaucoup de processus d'orientation pour les personnes en situation de handicap.
Bon, bien.
Alors,
on revient maintenant à ces profs que vous côtoyez, que vous formez, enfin, vous et les autres, là, disons. Je vous pose la question, est-ce qu'ils reçoivent bien non seulement cette nouvelle réalité, mais les changements qu'ils doivent apporter à leur enseignement, qu'ils parfois considèrent comme sacrés ou... comment ça se passe? Est-ce qu'ils accueillent bien ça, les professeurs?
Bien, je vous dirais que ici à l'Université de Montréal, oui, généralement, c'est bien accueilli. Quand il y a des discussions ou quand les professeurs, notamment, sont pas tout à fait en accord avec un accommodement ou se questionnent, en fait, bien, nous... Il parle au conseiller et le conseiller essaie de voir un petit peu, bon, ben si l'accommodement ne peut pas fonctionner, est-ce qu'il y a un autre moyen qu'on peut utiliser? Parce qu'on a une obligation d'accommodement, mais on n'a pas une obligation de résultat.
Voilà, donc il faut entendre, écouter, proposer des changements, mais ça ne veut pas dire que ces changements-là vont être parfaits pour les élèves ou les étudiants.
Bien, c'est ce qu'on tente. En fait, c'est ce qu'on tente. En regard de leurs difficultés et les objectifs académiques qu'ils ont à atteindre, on regarde le meilleur moyen possible pour qu'ils puissent atteindre les objectifs. Parce que nos étudiants en situation de handicap ne font pas fi des règles et des objectifs à atteindre.
Ouais.
C'est toujours de trouver le moyen. Puis c'est une réciprocité, en fait. C'est, on propose et l'étudiant, par la suite de communication, dit oui, j'accepte cet accommodement-là.
Je comprends. Et donc, la clé de ces succès-là, c'est qu'on en parle tôt, hein? C'est bien ça? Quand on arrive comme étudiant, on en parle trop au professeur et on espère que ça va bien fonctionner. Écoutez, on aurait pu parler davantage de cette situation qui ne va pas en rester là. On va continuer d'en jaser dans les prochaines années, entre autres parce qu'il manque peut-être un peu d'argent dans le système, soyons honnêtes, hein, pour bien accommoder.
Oui. Bon. Ben,
on pourra reparler.
À date, on est comme au niveau du financement, ça va. C'est juste qu'on a des craintes par rapport à ce qui va s'en venir, étant donné l'augmentation, est-ce que les budgets vont demeurer. Mais moi, je pense qu'on assiste à un mouvement de société qui est quand même intéressant, puis de former des étudiants en situation de handicap dans les milieux universitaires et cégep. Moi, je trouve ça merveilleux, l'inclusion que notre société choisit de...
Mais c'est probablement pour ça que vous faites ce que vous faites aujourd'hui. C'est parce que, comme beaucoup de gens, vous espérez que l'inclusion va advenir, puis ça passe par l'éducation.
Absolument.
Voilà. Nicolas Fortin, responsable et conseiller du service de soutien aux étudiants en situation de handicap de l'UDM et vice-président de l'Association québécoise interuniversitaire des conseillers aux étudiants en situation de handicap. Merci, M. Fortin.
Merci beaucoup, M. Razette. Bonjour.
Bonjour.